quand tu veux.
Oui, la première fois que j'ai vu Bido, c'était dans un film qui s'appelait Les Arpenteurs, un film de sous-terre. C'était génial parce qu'on voyait deux types dans une bagnole et ça commençait comme ça. Bido, il disait, t'es sûr qu'ils sont dessus? Alors l'autre disait, ouais, je suis sûr. Non, mais regarde s'ils sont dessus. Non, mais je te dis qu'ils sont dessus. Bon, il continue à rouler. Finalement, Bido, il s'arrêtait, il disait, bon, alors maintenant, tu sors de la voiture et tu regardes s'ils sont dessus. Le gars, il se penchait à la voiture, il dit, ouais, ils sont dessus. Bon, alors, Bido repartait, puis nous, les spectateurs, on ne savait toujours pas de quoi il s'agissait, quoi. Et finalement, les deux gars, c'était les arpenteurs. Alors, dessus, il y avait des échelles de mesure, quoi, soi-disant. Et en fait, elles n'étaient pas dessus. Donc, Bido s'arrête, il sort de la voiture et regarde, ils ne sont pas dessus. Donc il dit, ben maintenant tu vas les chercher. Et il continue sa route et l'autre il est retourné à pied les chercher. Et il y avait un étirement du temps qui était complètement fou. Et je me suis dit, oh là là, ils sont bons dans la gestion du suspense. Mais il y avait cet étirement du temps comme ça qu'on voit qui est tellement élégant. J'ai tellement aimé ce film après ça. J'avais une affinité pour le cinéma de cette époque, Goretta, Souterre, Tanner, voilà. Et voilà, je suis arrivé sur Tanner, moi.
Il y a Marcel qui a rien dit.
Oui.
Hein, Marcel, j'en veux plus.
C'est Mathilde qui a raison. Ah. C'est un garçon. Il s'appellera Jonas. Moi, j'ai toujours trouvé que Mathilde ressemblait à une baleine.
Merci, une baleine.
Mais non, mais l'esprit, bien sûr. C'est un beau compliment que je te fais. Personne ne peut rien reprocher aux baleines. Mathilde. Jonas va sortir de ton ventre. Il est tombé du bateau. Du beau bateau de conte sur lequel on navigue. Il a sauté à l'eau. Et toi, tu l'as avalé. Parce que t'es gentil.
Alors le lieu, c'est la banlieue et la ville de Genève. L'époque, c'est environ 25 ans avant l'an 2000. C'était exactement 25 ans avant l'an 2000.
C'est Jonas.
Puisque c'est au moment de la naissance de ma fille qui, justement, a eu 25 ans, ma fille Zoé, 25 ans l'an 2000. D'ailleurs, on devait filmer sa naissance pour le film, mais moi j'y tenais pas tellement. Alors les personnages, il y a 8 personnages principaux qui auront tous entre 50 et 60 ans en l'an 2000. Jonas, qui naît aux 2/3 de l'histoire, lui aura 25 ans.
Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000.
Nous avons surnommé nos personnages les petits prophètes. D'abord parce que leurs prophéties sont petites. Et ensuite, c'est modeste. Et ensuite, parce qu'eux-mêmes ne sont pas conscients d'être des prophètes. Ils n'annoncent jamais leur prophétie, qui n'existe jamais que pour eux, au niveau existentiel et individuel. Ce qui ne signifie pas qu'ils manquent de générosité ou qu'ils ne soient pas capables d'assumer les risques de leur choix. C'est pourquoi ils sont aussi absurdes comme des clowns peuvent l'être. À quoi ils répondront, et ils auront raison, que c'est le monde autour d'eux qui est absurde.
Toute notre sagesse consiste en préjugés serviles. Tous nos usages ne sont qu'asservissement, gêne et contrainte. L'homme civil naît, vit et meurt dans l'esclavage. À sa naissance, on le coud dans un maillot. À sa mort, on le cloue dans une bière. Tant qu'il garde la figure humaine, il est enchaîné par nos institutions.
Moi, ce matin, j'irai chez les maraîchers.
Où ça ?
Le boulot, la petite annonce que je t'ai lue hier.
Ah oui, je t'imagine mal au milieu des salades.
Je mange.
Pourquoi ?
Je peux avoir du sucre.
Tu savais que moi, je t'imagine mal au milieu des machines.
Oui, tu vas me voir.
Au milieu des petits chefs, dans la paix du travail. On te mange, Mathilde. On mange ma femme. Et à force de nous manger, je suis sûr qu'on devient les organes, les tripes, le foie, les boyaux, les couilles de nos ennemis. Ouais. Et quand ils l'eurent bien dévoré, ils la jetèrent à la rue, comme...
Comme qui ?
Comme moi.
Donc alors, le rôle de Mathieu. Mathieu est typographe de profession, mais il appartient, plutôt il appartenait, à l'élite ouvrière. Il a été cadre syndicaliste. En chômage depuis plusieurs mois, il a changé, même si Lénine et Romain Rolland trônent toujours sur le rayon de sa bibliothèque. Il est marié à Mathilde, ils ont trois enfants et ils sont les parents de Jonas, qui naîtra au cours de l'histoire. En cours de route, il se découvrira d'abord un certain goût pour le travail, qu'il trouvera chez un maraîcher, puis une véritable vocation pour l'éducation des jeunes enfants. Lorsque sa tentative d'école parallèle échouera, il se retrouvera dans l'obligation de prendre le premier travail venu. Il ira travailler dans une usine avec un statut social dégradé par rapport à ce qu'il était auparavant. Situation dont il saura tirer les conséquences, retournant aux luttes dans des termes nouveaux.
Pourquoi vous avez perdu votre travail ?
La crise dans l'imprimerie.
Vous étiez typographe ?
Oui, compression de personnel.
Et comme vous étiez une tête dure du syndicat, vous y avez passé en premier.
Eh bien ici, vous n'avez pas beaucoup de chance d'agiter la main d'œuvre avec les deux zéros. Vous pourriez faire le syndicat des zéros, soyez 0-3.
Je préfère qu'on m'appelle par mon nom, Mathieu. Mathieu Vernier.
Ben, je fais un des personnages qui est engagé dans une ferme. Puis finalement, au lieu de cultiver les champs, il cultive les enfants. Dans une serre, il fait une école et il fonde une espèce d'école où il apprend des choses aux enfants. Il leur apprend des choses bizarres comme le chant des baleines, la capacité de créer, l'envie d'être curieux, voilà. Au moment où Tanner vient me proposer de jouer dans ce film, c'est une époque où, avec Romain Bouteille, on a défendu l'école de Crolly à Saint-Mandé. J'étais un militant de cette éducation-là, puisque mes parents étaient éducateurs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, mes parents étaient des utopistes qui pensaient qu'il fallait développer une écoute particulière plutôt que de formater les enfants à l'école. Donc ça, c'est la séquence 51. C'est en noir et blanc. Dans le bout d'une serre, Mathieu est en compagnie de quelques enfants. Il leur pose des questions relatives à l'attribution de la conscience aux choses, aux objets. Il note les réponses. Type de question. Est-ce que le vent sent les nuages ?
Est-ce que la bicyclette sait qu'elle bouge ?
Est-ce que l'eau peut sentir quelque chose ?
Et si on la fait bouillir ?
Où se trouve le nom du soleil ?
Est-ce qu'il sait qu'on l'appelle soleil ?
Lorsqu'on bouge, est-ce que la lune bouge avec nous ? Et si on s'arrête ?
Et si on s'arrête ?
Etc. C'était en 75, donc 7-8 ans après... après mai 68, où tout avait été proclamé, la liberté dans plein de domaines, dans l'éducation, dans la sexualité, dans la gestion des entreprises, ça avait été proclamé. Puis la réaction du système, entre guillemets, avait été tellement virulente derrière, tout avait repris sa place, et Tanner faisait un film pour dire « bon, bah, alors on l'a dit, et puis on n'a rien fait, quoi ». Ben nous, au moment du tournage, on était connus pour des turbulents, déjà. On était peut-être les enfants de mai 68, déjà en action.
La rue s'est remplie de tomates. Midi, été, la lumière se coupe en deux moitiés de tomates. Dans les rues, le jus coule. Elle a une lumière propre, une majesté bénigne. Nous devons par malheur l'assassiner. Le couteau plonge dans sa pulpe vivante. C'est un rouge viscère, un soleil frais, profond, inépuisable.
Des 2,50 garantie non traitée.
Demandez nos légumes, demandez les épinards, produits naturels.
Signe garantie non traitée.
L'abondance sans noyau,
sans cuirasse, sans écaille ni arête, nous livre le régal de sa fraîcheur fougueuse et la totalité de sa fraîcheur.
Tanner était très effacé, il ne disait pas grand-chose. Il nous demandait des choses terribles, comme cette séquence où tout le monde se plonge dans la boue. Les enfants, qui ne doivent pas être sales, qui doivent être propres, etc., s'amusent à se jeter sur un tas de terre et à glisser dans la boue. Tout le monde se roule dans la boue et les parents en voient ça, elles sont un peu atterrées. Puis finalement, les parents font la même chose et se couvrent de boue. Et je me souviens qu'ils nous demandaient de faire ça. Et nous, les acteurs, on se couvrait de boue, donc on souillait nos vêtements. Et donc, on était extrêmement préoccupés par ce qu'ils nous demandaient. Et finalement, on avait peu de regard sur le type qui nous demandait ça. Donc, c'est la séquence 37, environ de chez Marcel, culture maraîchère. Mathieu est en train de décharger le fumier. Arrive un homme bien vêtu qui porte un attaché-case. C'est l'homme de la banque, annoncé par Max. Il voit Mathieu se dirige vers lui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes monsieur Sertou ?
Non. Moi, je suis le roi de la merde. Mais je peux vous emmener chez lui si vous voulez.
Oui, d'accord.
J'ai le bon souvenir d'avoir été le roi de la merde. Ben oui, puisqu'il a l'estimation qu'on peut faire pousser des fleurs sur le fumier. J'étais partie prenante de cette utopie et de cette conviction qu'un gâchis pouvait être réparé, qu'il y a un monde autrement, quoi. En voyant le film, Jonas, avec vous aujourd'hui, j'étais très attentif au récit et j'ai l'impression que ce récit peut être tout à fait entendu aujourd'hui. Il aurait sûrement beaucoup d'écho auprès des jeunes gens. Il n'a pas vieilli et bien sûr, ça se termine. On ne sait pas très bien si toutes leurs options ont marché. Mais si, il s'est formé. Ouh là là! Il a tiré deux coups, là. C'est des chasseurs. Ils chassent les sangliers, parce que les sangliers mangent les raisins. Ouais. Mais il n'y a bientôt plus de raisins sur les grappes, ça y est, les vendanges sont finies. Pardon. oui, on s'est détourné du film de Tanner. C'était très plaisant de voir la vérité avec laquelle les acteurs de ce film jouaient leurs propres convictions.
Et vous ?
Ben moi, j'ai été surpris. Je me souvenais plus que je faisais quasiment le dernier plan du film, la synthèse de toute cette histoire. Il est sur sa mobilette et puis il a un long monologue. Il raconte finalement que l'espoir n'est pas perdu.
Ô Marguerite la sorcière, ô Marco le philosophe, ô Marie la voleuse, ô Marcel l'ermite, ô Mathilde mon amour, ô Max l'ancien prophète, ô Madeleine la folle.
Je veux essayer de rassembler les fils de vos désirs afin qu'ils ne se dispersent point. Je retourne au travail. Je serai exploité. J'essaierai de rassembler, d'unifier le champ de vos désirs pour qu'ils servent de levier.
J'ai froid. Il est donc sur sa mobilette, il fait froid, il arrive au feu rouge et il ne sait pas vers quoi diriger sa colère.
Je suis au 20e siècle, Jonas, on ne me demande rien.
Simplement de tout accepter docilement. Je ne peux toucher que ce pour quoi on me paie, rien d'autre. Je suis main d'œuvre sur mon vélo. Il fait froid, tôt, ce matin.
Enculé de merde de putain de chier de feu rouge!
Il fait froid. Tôt, ce matin. Je pense aussi à la chaleur de mon lit. Jonas, les jeux ne sont pas faits. Reprenons ensemble depuis le moment où tu apprends à marcher jusqu'à celui où la police et l'armée tirent sur des milliers de types comme toi.
Depuis ta première leçon de lecture jusqu'à la dernière décision démocratique, celle de ne plus rien donner, quelles que soient les menaces. Est-ce que ce sera mieux pour toi ?
Le mieux est systématiquement écarté.
Une espèce de prière qui arrive à la fin du film et qui est absolument applicable aujourd'hui, puisque en fait les prophètes nous annoncent un changement de paradigme, c'est-à-dire que le monde va changer. Et on se demande comment le monde va changer. Et en fait, c'est comme si on avait des petites lumières qui s'allument par endroits au milieu de la carte et qui prennent un peu de place. Et l'espérance, c'est qu'un jour, ça prendra toute la place. Mais le fait de ce petit groupe qui s'est réuni pendant pas très longtemps, combien de temps ça dure le film ? Un an. Pendant un an, ils ont vécu ça, cette utopie. C'est une manière d'allumer une petite lumière. Et c'est pas vain, vous le disiez, beaucoup de gens ont appelé leur enfant Jonas en souvenir de ce film. Donc ce film n'est pas vain. Même s'il raconte que ça n'a pas marché. Si ça a marché, la preuve c'est qu'il y a eu un film. Le film c'est la preuve. Et pour ça, Tanner pourrait dire « j'ai fait mon job ».
Je dirais « on ne décidera plus pour nous ». La première fois, il ne se passera peut-être rien. La dixième fois, il y aura un comité. La centième fois, une grève. Et la 101e. Encore une leçon de lecture pour toi, Jonas. Autant de fois que je serai sur mon vélo pour aller au travail. Non. Plus. Autant de fois que les jours de ma vie.
Il m'a demandé comment je m'appelle. Et bon, moi, je m'appelle Rufus.
Rufus, c'est... Ça vient des aventures du petit Nicolas. C'est un bouquin de Goscinny. Il y a une classe avec dedans un certain nombre d'élèves dont les uns s'appellent Agnan, Clotaire, Eudes. Il y en a un qui s'appelle Rufus. Et sa spécialité, c'est qu'il est bête. Il est au fond de la classe. Et tout le monde se moque de lui. D'ailleurs, ils font passer un petit mot dans la classe. Rufus est bête, faites passer. Et ça fait rire tout le monde, sauf lui, bien sûr. Mais il est tellement bête, d'ailleurs, que finalement, il ne se rend pas compte qu'on se moque de lui. Et un jour, j'étais dans une situation où j'étais vraiment bête. Et j'ai écrit ce petit mot sur un papier. Rufus est bête, faites passer. Et ça m'a tiré d'affaire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, Rufus, c'est vraiment moi. Et je suis devenu Rufus pour la romance et pour la scène. Et j'ai changé de métier, j'étais étudiant et je suis devenu régisseur de théâtre. Et de régisseur, je suis devenu acteur.
Et vous avez quel âge maintenant, Rufus ?
J'ai même pas 80 ans.